Nous allons lire dans Luc au chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Au verset 31. C'est l'ange qui visite Marie et qui lui parle de la part du Seigneur. Il est écrit ceci: et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Nous lisons le même texte dans Matthieu au chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, verset 21. À partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 17 à 18. Ça, c'est les responsables spirituels juifs qui se sont réunis parce qu'ils étaient gênés par un miracle accompli par les disciples de Jésus. Verset 16, au verset 16, il est dit: « Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà, nous allons parler du nom de Jésus. Lorsque l'ange vient dire à Marie qu'elle va mettre au monde un enfant, il dit: tu lui donneras le nom de Jésus. Et un ange en songe parle à Joseph pour lui dire: tu lui donneras le fils, au fils de Marie, le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple, le peuple de Dieu, de ses péchés. Et Jésus, en grec, c'est Yehoshua. En hébreu, plutôt, c'est Yehoshua, et ça veut dire l'Éternel sauve. C'est le salut de Dieu, l'Éternel sauve. C'est la même racine, c'est le même sens que Josué, qui veut dire aussi Yehoshua, l'Éternel sauve. Le nom de Jésus a été donné en fonction de son identité, de sa mission, de son caractère. Parce que dans le monde spirituel et dans le monde que Dieu a créé, les noms ont une grande importance. Les noms ne sont pas que des chiffres comme dans le monde des machines ou des ordinateurs. Les noms ont une importance. Donc, quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, il lui a demandé de donner des noms aux animaux. Et Moïse, quand il devait se présenter auprès des enfants d'Israël pour leur dire que Dieu l'envoyait, il a dit, mais on me demandera qui m'envoie, le nom, c'est quoi? Et le Seigneur lui a répondu, mon nom, c'est celui qui, je suis celui qui suis. Donc, ce qui veut dire l'éternel. Donc, celui qui est, ça veut dire qu'il ne bouge pas, il est éternel, il ne change pas. C'était ça, son nom. Son nom est l'éternel. Voilà comment Dieu se révèle aux enfants d'Israël. Et nous constatons en lisant toujours les Écritures qu'on pouvait avoir plusieurs noms parce que une personne peut avoir plusieurs missions, peut avoir des orientations multiples. Et dans la nature d'une personne, il peut avoir plusieurs facettes. C'est ainsi que Dieu, même si son nom principal, c'est l'Éternel, il est appelé aussi El Shaddai, le Tout-Puissant. Il est appelé El Gibor, le Puissant. El Elyon, le Très-Haut. Il a d'autres noms, le nom principal étant l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, nous avons vu déjà la mission est dite. Dans un nom, nous allons rappeler, dans un nom, il y a la nature d'une personne. Donc le nom d'une personne, c'est son identité. Le nom d'un être, c'est son identité. Vous vous souvenez quand Jésus, dans Luc, au chapitre 8, versets 26 à 40, quand il a délivré un démoniaque, un homme qui était possédé, il a demandé le nom de l'esprit. Il a posé la question à l'esprit qui était dans cette personne-là, « Quel est ton nom ?» Et l'esprit a donné la réponse suivante, « Légion ». Et c'est écrit, il a répondu « Légion » parce qu'en réalité, ils étaient 5 000 à 6 000 parce que les légions romaines étaient composées de 4 000 à 6 000 soldats. Donc cet homme a dit légion pour dire en réalité quelle était leur nature. C'était des esprits multiples, ils étaient des milliers et des milliers, 4 000 à 6 000. Et il a donné le nom de légion. Donc dans le nom d'un être, il y a son caractère, il y a sa nature, il y a son identité d'une manière générale, il y a son caractère. Il y a aussi sa mission, il y a aussi sa mission, il y a aussi son autorité, sa place. Vous savez, dans certains pays d'Afrique, les gens ont le nom, le prénom en fonction de leur venue au monde. Donc si tu es le premier enfant, il y a un prénom pour ça. Si tu es le quatrième, il y a un prénom pour ça. Troisième, il y a un prénom pour ça. Donc tout ça, ça montre l'autorité donc, qu'on peut avoir par le nom. C'est ça le nom. Et le Seigneur nous a donné aujourd'hui un nouveau nom. C'est le nom de Jésus qui est invoqué sur nous, qui est sur nous. Dans 2 Chroniques 7, 14, il est écrit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, je lui pardonnerai son péché. » Donc, le peuple de Dieu, sur qui est invoqué le nom de Dieu, ça veut dire que sur ce peuple-là, il y a le nom de Dieu. Et nous sommes le peuple sur qui il y a le nom de Jésus. C'est très important de considérer ces choses. Nous vivons un temps où les gens vont tout faire pour éliminer le nom de Jésus du circuit. Et nous avons donné une lecture donc dans Actes des Apôtres, chapitre 4, où les anti-chrétiens ont décidé de leur interdire de prêcher en ce nom-là. Vous savez, en Israël, il y avait déjà plusieurs sectes. Il y avait plusieurs théories bibliques. Jusqu'aujourd'hui, il y en a toujours. Il y a plusieurs théories. Donc, on peut en discuter du matin au soir. Il y a les Samaritains. Aujourd'hui, il y a des Samaritains. Il y a plusieurs yeshivot. C'est des écoles rabbiniques. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs rabbins, plusieurs maîtres. Mais jamais vous les verrez en train de se triper ou de se battre ou bien de s'interdire de parler. Mais le nom qu'on ne veut pas que les gens citent, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Yeshua. Quand un juif cite ce nom-là comme un nom sous lequel il se met, il est considéré comme traître. Donc on le voit que ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis Actes des Apôtres, donc les gens, les responsables s'étaient réunis pour dire ne prêchez pas en ce nom-là. Donc, ils auraient pu dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Mais pas en ce nom-là. Parce que les forces des ténèbres, elles au moins, sont conscientes de l'importance du nom de Jésus. C'est les enfants de Dieu qui sont distraits. Parce qu'on finit par les éduquer à chercher de l'importance en eux-mêmes. Or, le Seigneur a dit, c'est dans son nom que se trouve notre victoire. Donc nous allons lire plusieurs passages qui nous montrent que le caractère, l'identité, l'importance du nom de Jésus. Comme nous l'avons dit, le Seigneur, le Fils de Dieu, notre Sauveur, a plusieurs noms comme Dieu, le Père, a plusieurs noms. Dans Ésaïe 7,14, on dit qu'on l'appellera Emmanuel. Parce que dans son identité, il est aussi Dieu parmi nous. C'est ça aussi, sa présence, c'était la présence de Dieu lui-même parmi nous. Son nom était Emmanuel. Dans Ésaïe 9, 5 à 6, on dit que son nom est admirable. Père éternel, Dieu puissant. Il a plusieurs noms, mais il y a un nom qui a été placé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. C'est son nom en tant qu'agneau de Dieu qui vient sauver le monde de ses péchés, c'est ce nom-là de Jésus qui a été placé au-dessus de tout nom. Et quand les souverains, les sacrificateurs, les responsables, les pharisiens, les responsables spirituels prennent les chrétiens à part et leur disent « ne prêchez pas au nom de Jésus, ne parlez pas de ce nom-là parce que ce nom-là les gênait ». Parce qu'eux, ils travaillaient pour leur ventre, ils travaillaient pour leur gloire, ils ne travaillaient pas pour Dieu. Et ceux qui travaillent pour Dieu, qui ne travaillent pas pour Dieu, ceux qui sont opposés à Dieu, ressentent bien le poids qu'il y a dans le nom de Jésus, parce que Dieu a mis tout son poids dans ce nom-là. L'Éternel sauve Jésus. Hein? Comme notre sœur a dit pendant qu'on priait là, Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu briser les prisons. Et ça, ce n'est pas supporté par les geôliers. Ce n'est pas supporté par les méchants qui gardent les gens captifs en prison. Prison de l'alcool, prison de la drogue, prison du mensonge, prison de l'amour pour l'argent, prison de l'orgueil. Tous ces esprits mauvais qui gardent les gens en prison et qui finissent après à les amener à la mort. Ils ne sont pas contents d'entendre le nom de Jésus parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui vient briser l'esclavage. Il dit dans Luc 4, 18, 19, l'Esprit de Dieu est sur moi. Lisons Luc 4, 18, 19. On peut commencer au verset 16. Il est écrit ceci. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ça, c'est le nom de Jésus. Oint pour libérer les captifs, délivrer les opprimés. Ça, c'est le nom de Jésus-Christ. Je me rappelle d'une histoire dans une famille musulmane. C'est une famille où le papa n'était plus là. Les enfants étaient seuls avec leur maman. Et ils vivaient des apparitions étranges de mauvais esprits. Et ils étaient embêtés, ils étaient craintifs la nuit, ils étaient dans la peur. Et un jour, leur enfant, l'enfant de celui qui avait 6 ans, il avait un aîné qui était plus âgé. Un jour, celui qui avait 6 ans, il sent un esprit lui apparaître. Mais il a voulu s'agiter et crier de peur. Mais celui-là lui a dit, non, là, je suis Jésus. Celui qui vient pour te sauver. Celui qui vient pour te secourir. N'aie pas peur. Vous vous souvenez quand les disciples ont vu Jésus en train de marcher sur l'eau? Ils ont dit, mais c'est un fantôme, c'est un esprit. Il a dit, non, c'est moi le sauveur. Et Pierre a dit, mais dis-moi, demande-moi que je marche aussi, si c'est vraiment toi, Seigneur. Le Seigneur a dit, vas-y, viens. Et Pierre a commencé aussi à marcher sur les eaux, allant vers le Seigneur Jésus. Et quand il a eu peur, il se noyait, il a crié, Jésus, sauve-moi. Et Jésus l'a sauvé. Et cette famille musulmane vivait dans la peur. Et il y a les esprits qui se rajoutaient pour leur faire peur. Mais ce jour-là, il y a le plus grand de tous les esprits, le Tout-Puissant. Quand il apparaît à l'enfant, il dit, moi je suis Jésus, celui qui sauve. Ce n'est pas les faux esprits, les petits esprits qui font peur. Moi je suis le Tout-Puissant, celui qui sauve. Et il dit à l'enfant, calme-toi, sois en paix. Occupe-toi de ta maman, c'est tout. Occupe-toi de ta maman, moi je m'occupe du reste. Voilà la nature de notre Seigneur, le Sauveur. Tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Or, nous connaissons la conséquence des péchés, c'est les malheurs sur terre, c'est les assassinats, c'est les jalousies, l'orgueil, le mensonge, le vol. Et la destruction, les divorces, tout le reste. Et Jésus dit, je suis celui sur qui a été posé le Saint-Esprit afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous n'êtes plus obligé de continuer à vivre dans l'esclavage de Satan. Vous n'êtes plus obligé. Parce que le libérateur est là. Son nom est l'Éternel sauve, Jésus. Il dit à cet enfant-là, calme-toi. Ça, c'est moi qui t'apparais. Ces esprits-là ne peuvent plus tenir. C'est ça la réalité, bien-aimé. Je vais finir rapidement pour cette anecdote-là. Cet enfant-là, à partir de ce jour-là, a commencé à prier Jésus. Et petit à petit, il en a parlé à sa mère s'est convertie. Et même le garçon, l'aîné, le plus dangereux, le plus difficile, il a fini aussi par être touché par le Seigneur pour se convertir. Toute la famille, aujourd'hui, est dans le Seigneur et en paix. Mais un jour, ça s'est passé en un jour où le Seigneur est venu voir cet enfant de 6 ans pour lui dire, calme-toi, tout est sous contrôle. Et ma prière, c'est que tu entends ce message comme le Seigneur qui te dit, calme-toi, je suis Jésus, celui qui sauve. Mon nom est Jésus. Et tu dois davantage te calmer puisque on l'a bien dit que Jésus a plusieurs noms, admirable conseiller, Dieu puissant. Mais le nom qui a été placé au-dessus de tout nom, c'est le nom du Sauveur, de l'agneau, de Jésus. C'est ce nom-là qui a été placé. Donc, tu es, si ce nom-là est sur toi, tu es dans le salut de Dieu. Tu es pris en charge. Il faut se mettre sous ce nom-là. Nous allons lire quelques passages. Nous lisons dans Jean 14. Jean 14. Quelques passages qui parlent du nom du Seigneur. Versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On va continuer jusqu'à la fin à parler du nom de Jésus pour lui-même, mais nous allons aussi en parler sur nous. Parce que ce nom, pour lui-même, c'est un nom glorieux, le nom du Sauveur. Mais quand on se met sous ce nom-là, il y a des conséquences. Il dit, quand vous venez avec ce nom-là, demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous l'accordera. Pourquoi? Parce que Dieu a été touché par le sacrifice de son propre fils. Son propre fils est descendu sur terre. Il a pris la nature humaine et il a pris le péché de tous les humains pour être condamné à leur place. Cet acte-là a émerveillé son Père. C'est pourquoi quiconque vient parler au Père au nom de Jésus, il est écouté. Ce nom-là est devenu comme un laissez-passer pour nous, pour aller voir le Père, le Créateur, parce que le Père a été satisfait par son Fils. Le Père a été émerveillé par son Fils. Il a été glorifié par son Fils et à partir de là, il accorde tout à son Fils. On se souvient quand Jésus a ressuscité Lazare, il a dit, quand il priait, il disait, « Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je te prie afin que tout le monde voit que je te prie et que c'est toi qui agis. » Donc Dieu ne refuse rien à son fils, le Père ne refuse rien à son fils, puisque son fils s'est donné à la croix pour sauver les pécheurs. C'est ce qui est écrit dans Isaïe 53. Il a intercédé pour les coupables. À cause de ça, son Père l'aime beaucoup profondément, à tel point qu'il ne peut plus rien lui refuser. Il ne peut rien lui refuser. Et nous, quand nous venons avec le nom de Jésus sur nous, et nous demandons en son nom, le Père écoute et il agit. Et Jésus nous dit, demandez en mon nom. Ne viens pas demander parce que tu es fort dans la prière. Ne viens pas parler parce que tu as beaucoup de connaissances. Viens rappeler au Père, à Dieu, le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de distractions dans les milieux chrétiens. On apprend toutes sortes de choses, sauf le nom de Jésus. Les gens ont beaucoup de connaissances aujourd'hui, mais il n'y a plus le nom de Jésus. Telle manière de prier, telle manière de chanter, telle manière de faire le culte, on insiste sur tout, sauf sur la chose sur laquelle on devrait insister le plus, c'est le nom de Jésus qui nous ouvre toutes les portes. Demandez en mon nom. Et les serviteurs du diable, connaissant l'importance du nom de Jésus, ils nous mettent la pression. Vous savez, il y a des endroits où on dit, on nous demande de venir chanter, faire un concert, mais on demande de ne pas parler du nom de Jésus, de rester neutre. Mais comment on peut être neutre face au salut des gens? On est obligé de parler du nom de Jésus. Nous, on leur dit, mais non, dans nos chants, il y a déjà le nom de Jésus. On ne peut pas être neutre. Et on va tout faire pour nous empêcher de citer le nom de Jésus. Mais bien aimé, c'est un rappel aujourd'hui. Si tu négliges le nom de Jésus, tu vas perdre. Tu vas perdre la puissance de Dieu. Parce que c'est par le nom de Jésus que nous recevons toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit nous a été donné par le nom de Jésus. Jésus dit, quand je m'en irai au ciel, j'enverrai maintenant le Saint-Esprit. C'est à cause du fait que Jésus a été sauveur qu'on a pu recevoir le Saint-Esprit. Je connais un groupe musical chrétien qui a fait beaucoup parler de lui pendant un temps. Mais ce groupe n'existe plus en tant que groupe aujourd'hui. Quoique ses frères et sœurs sont toujours là, en train de chanter d'une manière ou d'une autre, mais ils n'ont plus la même gloire, ils n'ont plus la même onction. Et quand j'ai pris leur dernier album, avant vraiment leur chute, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus le nom de Jésus dans les chants. C'était des très beaux chants musicaux toujours. Musicalement parlant, ça restait des très bons chants. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus le nom de Jésus. Il y a même un chant que j'aime beaucoup, mais j'ai dit, mais même quand je le chante, il y a un endroit, au lieu de dire la vie, moi j'ai dit Jésus. Parce que j'ai dit, mais comment on peut parler de la vie sans parler de celui qui donne la vie? Mais tout ça, c'est dû à quoi? À des conseils. On dit, bon, vous faites de la bonne musique, mais vous vous fermez des portes en disant le nom de Jésus partout. Donc il y a des gens que vous pouvez toucher, la musique est bonne, les chansons spirituelles, mais quand quelqu'un écoute déjà le nom de Jésus, il peut se braquer. Donc essayez d'enlever ce nom, vous mettez la vie par exemple, vous mettez la puissance par exemple. Mais bien aimé, comment tu peux enlever la source? Et ils enlèvent le nom de Jésus et ce groupe aujourd'hui n'existe plus comme il était avant. Il dit, mais voilà, le nom de Jésus est le plus grand, bien-aimé. C'est le nom qui nous a été donné. Il y a même un verset dans Actes 2, 21 qui dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Il y a des conseils comme ça. Ah mais non, mais tu peux parler, donner des conseils, prier pour les gens, mais dire le nom de Jésus directement, comme c'est des musulmans, ça va les braquer. Non, bien-aimé. On n'a pas à cacher ce nom-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres au chapitre 3? L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont guéri un infirme. Et les gens sont là plein d'étonnement, en train de les regarder. Écoutons ce que Pierre dit au verset 12. Pierre voyant cela, chapitre 3, 12. Hein. Pierre voyant cela dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Pierre dit, ce n'est pas parce qu'on est des gens qui prions beaucoup ou bien parce qu'on lit beaucoup la parole qu'on a fait marcher cet homme. Je vais vous donner l'explication. Pierre leur dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pierre leur dit, mais c'est parce que on a cru au nom de Jésus que cet homme peut marcher aujourd'hui. Son infirmité est finie par la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas parce que nous, on est des très bons chrétiens, c'est parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui agit. Le nom de Jésus a affermi les jambes de cet homme. On veut nous distraire en nous donnant toutes sortes de conseils, toutes sortes d'enseignements qui enlèvent le nom de Jésus, qui se concentrent sur nous-mêmes, sur nos propres visions, sur nos propres logiques et raisonnements. On te dit ton appel, oui, mais notre appel n'est rien sans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qu'on doit mettre toujours au-dessus. J'entends des discussions entre chrétiens sur comment faire le culte, comment faire la Sainte-Cène, comment faire ceci. Tout est dit. On néglige le nom de Jésus-Christ. Où est Jésus dans tout ça? C'est la distraction, bien-aimé. Voilà telle chose qu'il faut faire pour être béni. Voilà telle chose qu'il faut faire pour être entendu par Dieu. Non, le Seigneur a dit, demandez en mon nom. Il faut utiliser l'autorisation, le laisser-passer qu'on nous donne, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, je ne viens pas par moi-même, je viens parce que je fais partie du peuple de Jésus et je viens en son nom te demander telle chose. Et après avoir reçu l'interdiction, nous lisons dans Actes, les apôtres ont continué quand même à prêcher. D'ailleurs, c'est Pierre qui répond, hein, on est toujours dans Actes des apôtres, au verset 4, quand on dit à Pierre et Jean de ne plus parler du nom de Jésus, écoutez leur réponse au verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Pierre dit, mais comment on va se taire à propos du nom de Jésus? Parce que c'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Ça me rappelle Esther Gulshan, cette fille d'imam au Pakistan. Elle est née infirme. Elle était née infirme. Et à l'âge de 15 ans, son père l'a amenée en Angleterre, parce que son père était hyper riche, l'a amenée en Angleterre pour voir les plus grands médecins pour sa guérison. Il arrive avec sa fille, devant le plus grand spécialiste. Le plus grand spécialiste lui dit, j'ai examiné ta fille. La médecine ne peut plus rien pour elle. Seul Jésus peut faire quelque chose pour elle. Le monsieur, l'imam musulman, il se dit, mais quoi? C'est les chrétiens qui vont m'apprendre à chercher Dieu maintenant? Parce que dans l'esprit des Pakistanais, des Marocains, des musulmans du monde entier, le chrétien, c'est l'Européen. Donc, tout ce qu'ils voient dans les films, c'est ça le chrétien. Donc, ils ne savent pas que le chrétien, c'est celui qui suit vraiment la Bible, qui suit Jésus. Pour eux, le chrétien, c'est l'Européen. Ce n'est pas les gens qui mettent les mini-jupes qui vont m'apprendre à chercher Dieu. Alors, il a pris sa fille et il l'a amenée à la Mecque. Ils ont fait toutes les cérémonies de la Mecque cherchant la guérison. Parce que je peux vous dire qu'il y a cérémonie et cérémonie. Hein. Il y a deux villes qu'il faut parcourir en courant. Il y a des moutons qu'il faut tuer en grande quantité. Parce que les gens, quand ils vont, ils ne vont que pour une seule chose. Mais à la Mecque, il y a plusieurs cérémonies. La plupart ne font qu'une. Mais ceux qui sont riches font toutes les cérémonies et ça coûte beaucoup d'argent. Il y a une cérémonie, il faut jeter des pierres sur une sorte de statue de Satan. Il y a plusieurs cérémonies. Et ils ont fait toutes ces cérémonies. Gulshan n'était pas guérie. Et quand elle est revenue avec son père au Pakistan, son père, dans le chagrin, il meurt. Et Gulshan, quand son père meurt, elle dit, « Mais Dieu qui m'a créé, comment tu m'as déjà créé infirme? Et en plus, ma mère est morte, j'étais petite, et là c'est mon père qui était tout pour moi qui s'en va encore. Comment ça? » C'est là qu'elle entend une voix qui lui dit, qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a donné la vue aux aveugles. Et la voix lui dit, « Je suis Jésus, le fils de Myriam. On parle de moi-même dans le Coran. Et à partir de ce jour-là, Gulshan a commencé à lire tous les passages concernant le Sauveur. Bien-aimé, le conseil que je nous donne, si on n'a pas beaucoup de temps, lisons les passages concernant le Sauveur. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Tout le monde n'est pas appelé à être docteur. Cette fille-là, consciente du fait que c'est Jésus qui guérit, elle ne lisait plus que les passages parlant de Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire toute la Bible, mais si tu as peu de temps, lis le passage concernant le Sauveur. Ne te laisse pas distraire. Elle ne lisait que ça. Pendant 3 ans, elle a attendu la guérison, ça ne venait pas. Elle disait, mais Jésus, celui qui guérit, guéris-moi pendant 3 ans. Et la 3e année, il a dit, mais Jésus, ça fait 3 ans que je te le demande. Tu ne me donnes pas la guérison si tu ne veux pas. Dis-le-moi, bien-aimé. Après cette phrase, sa chambre a été remplie de lumière. Il a vu le Seigneur des Seigneurs, roi des rois, l'agneau de Dieu, Jésus de Nazareth, lui apparaître avec les 12 apôtres, 6 à gauche, 6 à droite. Et il lui dit, lève-toi. Elle dit, mais je suis infirme, je ne peux pas. Il dit, mais c'est moi qui donne l'ordre. C'est moi qui ai fait les molécules, c'est moi qui ai fait les atomes, le corps. Je suis le Sauveur. Lève-toi. Elle a dit, mais je suis infirme. La 3e fois, elle s'est levée. Et sa vie a été transformée par le Sauveur. Maintenant, quand le matin est arrivé, sa tante qui était aussi son aide dit, mais j'entends des pas dans ta chambre, Gulshan. C'est quoi? Qui est là-bas? Elle dit, mais ma tante, c'est moi-même. Mais qui marche? Elle dit, mais ma tante, c'est moi. Mais la tante entre avec précipitation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui explique, c'est Jésus qui m'est apparu. Et la tante lui dit, s'il te plaît, quand tes frères vont venir, dis seulement que c'est Dieu qui t'a guéri, mais ne dis pas Jésus. Vous comprenez que ça, ce n'est pas d'aujourd'hui cette affaire, c'est depuis Actes des Apôtres. Les gens là ont dit, on vous interdit de prêcher en ce nom-là. Ils ne leur interdisent pas de prêcher tout simplement, mais en ce nom-là. Il ne faut pas citer ce nom-là. Et la tante dit, s'il te plaît, quand tes frères vont venir, dis seulement que c'est Dieu. Ne dis pas que c'est Jésus. Mais il dit, ma tante, mais comment je ne peux pas dire que c'est Jésus alors que c'est lui qui a fait? Et les frères sont venus costauds avec leur visage dur. La fille, elle a dit, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Mais non, mais quand les invités vont venir, ne dis pas que c'est Jésus. Et les invités sont venus le soir, les gens sont venus le soir parce que ça a fait tollé dans le village. Gulshan marche, tout le monde est venu, la famille est venue. Et elle continuait fidèlement à expliquer mais que c'est Jésus qui l'avait guéri. Les frères étaient gênés, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle disait, mais comment je peux dire autrement? Parce que moi j'étais infirme, c'est lui qui m'a guéri. Et c'est ce que Pierre dit là, il dit, mais comment nous pouvons dire autre chose? Parce que c'est Jésus qui nous a guéris. Bien-aimés. Pourquoi entrer dans les discussions vaines alors que c'est Jésus qui nous a sauvés? Pourquoi discuter sur les églises, sur ceci, cela? Concentrons-nous sur Jésus. Laisse que le nom de Jésus soit sur toi. C'est ce nom-là qui sauve. L'Éternel sauve. Pierre était clair. On ne peut pas changer. Et dans Actes des Apôtres, chapitre, on les a tapés après, on les a frappés. Mais ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Mais à un moment donné, on les a frappés quand même. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 28, on les rattrape encore. On dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé sur sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Nous sommes témoins de ces choses. Et nous devons raconter cela. Comme le chant disait tout à l'heure, « Adonnez-moi mille voix, adonnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. » On doit dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, nous savons que la société refuse ce nom parce que la société est manipulée par le diable. Le diable sait que c'est le nom de Jésus qui sauve. Alors, par maintes philosophies, même courant de pensée, multiples intelligences en utilisant la télévision, en utilisant la culture, il en est arrivé à empêcher les gens de parler de Jésus clairement. Mais nous qui connaissons les choses, est-ce qu'on peut se taire? On ne peut pas. On doit dire les choses clairement. C'est Jésus qui sauve. Parce que lui seul a été à la croix et il a pris nos péchés sur lui. Mais c'est très important de ne pas utiliser le nom de Jésus, d'utiliser le papier autorisation que Dieu donne, qui est le nom de Jésus, sans lui appartenir. Il faut lui appartenir. Il faut d'abord que ce nom-là soit sur toi, comme quelqu'un qui appartient maintenant à Dieu, à Jésus. Vous savez, aujourd'hui, nous, les fermiers que nous voyons ont chacun leur troupeau et puis même si leurs bêtes sont marquées, mais la marque n'est pas comme autrefois où il y avait dans les villages, il y avait un berger du village qui le matin prenait le bétail de chaque villageois et allait faire paître. Là, il fallait bien marquer ce qui était tes bêtes à toi, parce que le berger, il amène toutes les bêtes de toutes les familles. Il fallait bien marquer. Et là, le Seigneur, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un pouvoir magique. Ce n'est pas un gris-gris. Son nom n'est pas un fétiche. Son nom et sur les gens qui lui appartiennent. Et ce sont ces gens-là qui peuvent en user pleinement. Les autres qui ne lui appartiennent pas, ils ne peuvent en user que pour crier à lui, pour dire « Jésus, sauve-moi !» Mais en user pour travailler pleinement, non. Car si on use de ce nom-là pour travailler pleinement, sans qu'on lui appartienne, on va avoir des soucis. On va avoir des soucis. On va dire, ah, mais je suis américain. Mais arrivé à la frontière, mais vous avez dit que vous étiez américain. Où est le passeport? Oh non, mais j'ai la taille des Américains. On dit, non, mais ça ne compte pas. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais non. Au nom de Jésus, mais rien ne se passe. Mais oui, mais est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que tu appartiens à Jésus? Dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Il est question Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, Qui êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà la conséquence. Il y a des gens qui se sont dit, mais Paul est en train de chasser les démons au nom de Jésus. Ils s'en vont. Paul est en train de guérir les malades au nom de Jésus. Ils s'en vont. Oh, mais c'est un pouvoir, ce nom-là. Alors, nous, si on va utiliser, ils ont pris des gens qui étaient possédés, quelqu'un qui était possédé. Allez, on chasse les esprits qui sont là au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, ils ont prouvé par cette phrase-là que Jésus, c'est Paul qui le connaissait, pas eux-mêmes, au nom de Jésus que Paul prêche. L'esprit malin dit, mais c'est comme on a dit, tu arrives à l'aéroport, je suis américain, mais où est le passeport? Oh, mais tu sors un passeport malgache. On m'a dit, mais non, mais tu sors un passeport comorien. Mais non, c'est pas ça. Tu sors un passeport congolais. On m'a dit, mais non. Oui, mais je croyais que puisque j'ai beaucoup de cheveux, mais ça ne compte pas. Tu vas en prison direct. Les esprits disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais on vous chasse. Les esprits disent, mais de quel droit vous nous chassez? Vous savez, on a eu des délivrances comme ça où on chassait les esprits. Il y a l'esprit qui dit à l'un d'entre nous qui était, parce qu'on était quatre ou trois. Il dit, même toi aussi tu chasses. Donc l'esprit sait qui est qui. Parce qu'il ne voit pas le cachet de Jésus sur la personne. Oh, toi aussi tu te lances dans cette affaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit le nom de Jésus dans la bouche que ça suffit. Il faut appartenir à Jésus. Il faut être à lui. C'est très important. Aujourd'hui, demandons au Seigneur de lui appartenir. Et comme ça, on est libre de parler en son nom. On est libre de travailler avec son nom. On est libre, on a l'autorisation, on a le laissez-passer. Bien-aimé, on ne peut pas user du nom de Jésus si, troisième élément, on n'entre pas dans l'objectif du Seigneur. Non seulement on doit lui appartenir, non seulement c'est comme pour nous une autorisation, un laissez-passer, mais c'est aussi un objectif. Le nom de Jésus est un objectif. Donc pendant que nous sommes sur terre, ça doit tout le temps nous rappeler ce que nous devons devenir. Dans Éphésiens 4, il est écrit que Dieu a établi les apôtres, les pasteurs, les docteurs pour nous amener à la stature parfaite de Jésus. Pendant qu'on cite le nom de Jésus régulièrement, ça doit nous rappeler ce que nous devrions être, ce que nous devons être. C'est ça l'objectif. Tu te dis, je dois être doux comme le Seigneur. Je dois être aimant comme le Seigneur. Je dois être sage comme le Seigneur. Je dois être puissant comme le Seigneur. Donc ça doit nous rappeler tout le temps. À tout moment qu'on entend le nom de Jésus, ça nous rappelle ce que nous devons devenir. C'est très important. Sinon, nous passons à côté. Sinon, nous ferons partie des gens de Matthieu 7 qui diront à la fin des temps, Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades. Et il est écrit, le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous avez juste pendant un temps fait ça. Mais vous ne m'avez pas pris comme objectif. Notre objectif, c'est de ressembler à notre Sauveur. Il nous a sauvés pour ressembler à lui. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas réussir, entre guillemets, son ministère. Non, l'objectif, c'est ressembler au Seigneur. Et le Seigneur lui-même réussira, parce qu'il n'échoue jamais. Qu'on ne nous distrait pas par rapport à nos objectifs. L'objectif doit être de ressembler au Seigneur. Son nom doit rester gravé fortement en nous au point de nous influencer et de nous transformer en sa propre image. Nous clôturons en lisant Philippiens 2 et puis Apocalypse 22. Philippiens 2. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc le nom de Jésus a été élevé au-dessus du nom des maladies, au-dessus du nom des souffrances. C'est le nom le plus puissant. Vous savez, dans le monde, c'est la guerre des noms. Vous voyez, même quand les soldats, les armées font des missions, elles leur donnent des noms. Opération Barbarossa, quand il a fallu attaquer la Russie par les Allemands. Dernière opération des Israéliens à Gaza, bordure protectrice. Il y a toujours des noms. Le combat spirituel, c'est un combat de noms. Chacun vient avec un nom. Et c'est le nom le plus grand qui va triompher. C'est ça le combat spirituel. Avec quel nom que tu viens? Si tu viens avec le nom de tes qualités à toi, ça ne marchera pas. C'est le nom de Jésus qu'il faut ramener. Le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom. Quand un péché se met en face de toi, tu le combats avec quel nom? Est-ce que tu le combats avec tes propres exercices ou bien tu brandis le nom de Jésus-Christ? Quand un obstacle se met devant toi, quel nom tu utilises? Il faut utiliser le nom qui a été placé au-dessus de tout nom. Quand tu veux utiliser le nom de tes propres expériences, ça ne va pas marcher. Le Seigneur a placé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est ça la vérité. Et ceux qui croient expérimenteront cela. Et, bien-aimé, c'est écrit dans Apocalypse 22, versets 1 à 5. Moi, j'attends ce jour-là. Apocalypse 22, 1 à 5. Et il me montra un fleuve. Ça sera donc à la fin des temps, quand tout sera fini, nous arrivons à la conclusion. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus de maudits. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Son nom sera sur leur front à jamais. Aujourd'hui, on a déjà le nom de Jésus dans nos cœurs. C'est déjà gravé. Mais ce jour-là, ça sera sur le front une fois pour toutes. Et ça ne sera jamais plus enlevé. Ce jour merveilleux du retour du Seigneur. Mais déjà, il faut que son nom soit gravé dans ton cœur. C'est la première étape, que le nom soit gravé dans le cœur. Et la dernière étape, ça sera le nom sur le front. Boum! Et là, rien qu'en avançant, chacun reconnaît qui tu es. Aujourd'hui, bien-aimé, le nom de Jésus est celui qui nous fait passer de la mort à la vie. Il nous fait passer des gens voués à aller en enfer aux gens destinés à aller au paradis. Le nom de Jésus est celui qui nous donne la primauté sur les forces des ténèbres. Il nous donne la primauté sur tout autre nom, quel que soit le nom négatif ou positif, le nom de Jésus est au-dessus. Mais plus tard, ça sera notre identité. On aura son nom sur le front. On sera comme lui. C'est ce grand jour que nous attendons. Il y a un chant qui dit, le nom de Jésus est si doux, de Dieu enlevant le courroux. Il nous amène au rendez-vous au précieux nom de Jésus. Jésus, ton amour est grand. Jésus, quel merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours.